de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir chers auditeurs, comment ça va? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et les chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La Banque mondiale approuve un fonds de 400 millions de dollars américains pour surmonter les vulnérabilités financières de l'Indonésie. COVID-19 diminue, Singapour commence à assouplir les règles la semaine prochaine. Le Sénat approuve Zahid Qureshi pour devenir le premier juge fédéral musulman des États-Unis. La Malaisie prolonge le confinement total. Sri Mulyani a rappelé que l'impact du changement climatique est aussi dévastateur que la COVID-19. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un financement de 400 millions de dollars américains, soit environ 5 600 milliards de roupies, qui sera utilisé pour soutenir les réformes du gouvernement indonésien visant à approfondir, accroître l'efficacité et renforcer la résilience du secteur financier. Le directeur de la Banque mondiale pour l'Indonésie et Timor-Leste, Satu Kahkonen à Jakarta a déclaré vendredi que le nouveau financement était conçu pour aider l'Indonésie à remédier aux vulnérabilités du secteur financier exacerbées par la pandémie COVID-19. Selon Kahkonen, ce financement vise à compléter les efforts du gouvernement pour protéger le secteur financier et l'économie des impacts de la crise de la COVID-19. Singapour assouplira les règles de distanciation sociale à partir de la semaine prochaine parce que le taux d'ajout de cas de COVID-19 a diminué ces derniers temps. Rapporté par The Straits Times vendredi, le groupe de travail COVID-19 de Singapour a déclaré qu'il assouplirait les règles de distanciation sociale en deux étapes à partir de lundi. Avec cet assouplissement, les lieux publics tels que les musées et les bibliothèques peuvent recevoir des visiteurs à 50% de leur capacité contre 25% auparavant. Des événements de rassemblement peuvent également être organisés à nouveau, mais ne peuvent pas être assistés par plus de 50 personnes. De plus, les participants doivent d'abord passer le test COVID-19. Le Sénat américain a approuvé Zahid Qureshi comme juge de district américain pour le district de New Jersey lors d'une vote qui s'est tenue jeudi, heure locale. Avec cette confirmation, Qureshi est entré dans l'histoire en tant que premier juge fédéral musulman aux États-Unis. Rapporté par CNN vendredi, le président Joe Biden a nommé Qureshi candidat au poste de juge fédéral américain en mars dernier dans une politique qui vise à fournir une grande diversité d'horizons, d'expériences et de perspectives pour renforcer les États-Unis. Il deviendra le premier musulman américain de l'histoire des États-Unis à exercer les fonctions de juge fédéral de la section 3. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le gouvernement malaisien a décidé de prolonger le confinement total du 15 juin jusqu'au 28 juin 2021. L'annonce a été faite par le ministre de la Défense de la Malaisie, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, en Putrajaya vendredi. Auparavant, le gouvernement local avait mis en place un confinement total du 7 au 14 juin. Le ministère malaisien de la Santé a expliqué et suggéré lors de la session spéciale du Conseil d'État pour la sécurité, dirigée par le Premier ministre aujourd'hui, que le confinement total 3.0 soit prolongé pendant 2 semaines. Il a déclaré que cette décision avait été prise après avoir considéré que le nombre quotidien de cas est encore élevé, à plus de 5 000 par jour, avec une moyenne de nouveaux cas jusqu'à vendredi soir, 6 871. Le ministre des Finances Sri Mulyani a déclaré que l'impact du changement climatique serait très grave, le même que celui de la COVID-19, de sorte que tous les pays doivent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sri Mulyani, lors du webinaire sur le défi du changement climatique organisé par l'Université d'Indonésie vendredi, a donné un exemple des impacts du changement climatique qui se sont produits dans divers mondes tels que la fonte des glaces au pôle nord et sud et le changement climatique sous la forme de sécheresse et de pluies prolongées. Même si vous vous référez au rapport utilisé comme référence lors de la réunion mondiale sur le changement climatique actuellement, la température mondiale est de 1,1 degré Celsius, plus haute que la période pré-industrialisation. D'après l'étude, selon Sri Mulyani, même si tous les pays mettent en œuvre la contribution déterminée au niveau national dans l'accord de Paris pour réduire les émissions de carbone, le monde ne sera pas épargné par la hausse de température. Réfléchissant à la pandémie de COVID-19 où les pays développés ne sont pas prêts à y faire face, Sri Mulyani a souligné l'importance de la contribution et de l'engagement de tous les pays pour réduire les émissions de carbone. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Pancasila, Bhagavata, Sabda, Tara.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Les nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Magelang, Java Central. Un certain nombre d'officiers du centre de conservation de Borobudur ont ouvert la couverture du stupa du temple de Borobudur. La couverture est utilisée pour anticiper la pluie de cendres volcaniques provenant de l'éruption du mont Merapi à la frontière de la province de Java Central avec la région spéciale de Yogyakarta. Le coordinateur de l'aspect de l'utilisation du centre de conservation de Borobudur, M. Yudi Suhartono à Magelang, le mercredi 9 juin a déclaré que la fermeture du stupa avait été ouverte sur la base de diverses considérations. Le couvercle doit être ouvert pour d'autres mesures de conservation afin que les roches de compost Borobudur soient maintenues. De plus, en ouvrant le couvercle du stupa de Borobudur, on espère que les touristes et le public pourront voir naturellement le temple de Borobudur de loin sans couvercle. M. Yudi Suhartono espère que l'avenir, la communauté environnante et les acteurs de tourisme participeront également à l'entretien et à la protection du temple de Borobudur afin qu'il soit durable et puisse être transmis aux générations futures. Les nouvelles suivantes sont venues de Lombok, Nusa Tenggara West. Le club de lecture des femmes de la région du nord de Lombok, dans l'ouest de Nusa Tenggara, a reçu une aide de la France d'un montant de 300 millions de roupies. L'aide vise à financer la construction d'un secrétariat commun et d'un bâtiment de l'éducation nationale de la petite enfance au PAUD. Le régent du nord de Lombok, Haji Johan Samsu, a déclaré que l'éducation de PAUD joue un rôle important pour combler les recoins du cœur des enfants dès leur plus jeune âge et les introduire à l'environnement. De plus, l'existence de PAUD peut être une solution aux inquiétudes des parents face au développement rapide à la technologie, bien que d'un autre côté, elle peut apporter des bénéfices. Il espère que les enfants seront plus enthousiastes à lire et aimeront lire au milieu de la pandémie de la COVID-19. Les dernières nouvelles viennent de Papouasie. Des soldats de l'armée nationale indonésienne, ou TNI, du groupe de travail sur la sécurité des frontières entre Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée, Yonif 403 Wirasada Pratista, fournissent des services de santé gratuits aux Papous autochtones dans le village de Obanel, district de Kiwirok, la région de montagne Bintang. Le commandant Yonif 403 Wirasada Pratista, le lieutenant-colonel infanterie AD Pribadi Siregar, dans un communiqué reçu à Jayapura mercredi, a déclaré que les services de santé gratuits avaient soigné avec succès 66 résidents autour de la frontière entre l'Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette activité est une série de commémorations de l'anniversaire de Pancasila le 1er juin 2021. En plus de collaborer avec les responsables du village, ce service coopérera également avec le centre de santé du district de Kiwiro pour un soutien médical dans la réalisation de ce service social. Les services de santé sont effectués dans le village de maison en maison. En plus de donner des médicaments, son parti fournit également des vitamines aux résidents pour augmenter l'immunité pendant la pandémie COVID-19. Chers amis, c'était la rubrique Les nouvelles de l'Indonésie. Merci à tous et à bientôt. Chers amis des quatre coins du monde, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 12 juin. Le 12 juin 1964, l'Afrique du Sud a condamné Nelson Mandela à la prison à vie. Le chef du groupe de lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela, a été condamné le 12 juin 1964 à la prison à vie par le juge de la ville Pretoria. Mandela a été reconnu coupable d'avoir saboté le gouvernement à l'époque. Outre Mandela, sept combattants anti-apartheid ont également été condamnés à la prison à vie. Mandela a été envoyé à la prison de l'île Ruben sur la côte sud-africaine. En 1982, le gouvernement a transféré Mandela sur le continent. Cette transfert était conforme aux protestations de nombreuses personnes contre le régime d'apartheid dans le pays. Après presque 27 ans de détention à l'île Ruben, Mandela a finalement été libéré en 1990. Le 2 juin 1990, les premières élections libres ont lieu en Algérie. Les premières élections libres ont lieu en Algérie et les résultats de leurs calculs, le parti du Front islamique algérien, ou communément appelé le Front islamique du Salut, a remporté un grand nombre de voix. Le Front islamique du Salut a réussi à contrôler plus de 54% du nombre total de votes enregistrés, alors que le parti au pouvoir, le Front de Libération Nationale, n'a reçu que pas moins de 28%. Avec cette victoire, le parti du Front islamique du Salut a le droit de contrôler et d'obtenir les privilèges dans la plupart des autorités de plusieurs villes et au pouvoir. Mais la victoire a été annulée par les autorités soutenu par l'armée. À la suite de l'annulation, l'Algérie a été frappée par des émeutes et des violences qui ont fait de nombreuses victimes. Le 2 juin 1991, Boris Eltsine a été élu président de la Russie. Après que l'Union soviétique a éclaté et changé son nom en Russie, le pays est devenu un pays qui n'était pas pris en compte et ignoré par les pays du monde, notamment les pays occidentaux. Après que la soviétique a changé son nom en Russie, Boris Eltsine a été élu président de la Russie lors d'élections directes le 12 juin 1991, avec 57% des voix. Eltsine a accédé au trône avec une vague de grands espoirs de réformes politiques et déception face au pouvoir communiste. Il a immédiatement décidé de mener des réformes économiques. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Sendiri, oh. kenapa terikat di hati. Oh, tak akan ku berhenti mengarungi darah sidu bindi. Oh, oh, berjalan dalam gelap sinar kau menyala, harapan kan ada. Berhentilah berputus asa, berhentilah berputus asa. Berjalan dalam gelap, harapan kan datang membawa
toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voice.id. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mode Indonésie, intitulée « La zone industrielle de Kendal est un modèle national ». Le ministère de l'Industrie a déclaré que la région de Kendal dans la province de Java Central était en mesure de devenir une zone industrielle nationale pilote avec le potentiel de la région. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du métal, des machines, des équipements de transport et des électroniques au ministère de l'Industrie, Taufik Bawazir, lors d'une discussion de groupe au bureau de gouvernement de Kendal. Le jeudi 10 juin, Taufik Bawazir a déclaré qu'en plus de la zone industrielle de Kendal, la région de Kendal possède une usine d'acier et une industrie touristique qui ont un potentiel assez grand. Selon Taufik Bawazir, le secteur industriel contribue à plus de 30% au revenu régional. Il s'agit d'un indicateur de la réussite d'une région d'un point de vue industriel. Selon Taufik Bawazir, la supériorité de Kendal est visible depuis l'époque coloniale néerlandaise. Il a dit que l'une des reliques de cette époque était l'usine de sucre de Cepiring. Cela indique que Kendal est très prospectif dans le secteur industriel. Par conséquent, le gouvernement central supervisera Kendal dans le développement de l'industrie. D'autre part, le public doit améliorer sa capacité à exploiter les technologies de l'information en utilisant les outils technologiques existants, tels que des gadgets. À la même occasion, le régent de Kendal, Diko Ganinduto, a indiqué que de nombreuses industries s'étaient construites dans sa région, y compris une aciérie de Patebon. De plus, il y a aussi la zone industrielle de Kendal, qui a une superficie d'environ 1000 hectares. Le régent de Kendal, Diko Ganinduto, espère qu'à l'avenir, la zone industrielle de Kendal pourra accueillir le trafic industriel qui traverse et produit dans cette région. Selon Ganinduto, il existe déjà des dizaines de pays prêts à investir à Kendal, comme le Vietnam, le Japon, la Chine, la Malaisie, Singapour, la Corée, les Philippines, y compris l'Indonésie. Dans le même temps, le représentant d'universitaire de l'Université de Mataram, M. Khairil, dans la discussion, a dit que le progrès industriel était étroitement lié à la capacité des acteurs économiques à utiliser les technologies de l'information. Il a déclaré que si l'un des indicateurs du ministère de l'Industrie concernant le progrès industriel doit être basé sur les informations technologiques, il doit y avoir une socialisation liée à cette question. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter la tribu de Bauzi en Papouasie. La tribu de Bauzi est l'une des 260 tribus indigènes qui habitent maintenant en Papouasie. L'Agence centrale de statistiques de Papouasie inclut cette tribu dans une liste de 20 tribus isolées qui ont été identifiées. Le peuple Bauzi vit dans des forêts isolées ou dans des villages le long des rives de la rivière Mamberamo et de Lagbira, la régence de Mamberamo Raya, Papouasie. Ils ont dû pour chercher les poissons tilapia mesurant jusqu'à 20 cm de large. Ce poisson est aussi appelé le tilapia planche. Habituellement, le Bauzie transforme le tilapia en poisson salé et le vend à Jayapura. En plus d'être doué pour la chasse au tilapia, la tribu de Bauzie est également célébrée en tant que tribu de chasseurs de crocodiles et de serpents. Pour eux, la viande de crocodile et de serpent est la meilleure nourriture au monde. La viande de crocodile et de serpent est généralement cuite en rôtissant sur une cheminée et ensuite mangée avec du sagou, des bananes grillées ou du fruit à pain. Traditionnellement, lors de la chasse au crocodile, les hommes bauzis tricotaient et tisser des cordes fabriquées à partir des fibres d'arbres melinjo qui célébraient pour être fortes. Ils se sont ensuite rendus en bateau jusqu'à la partie de la rivière que l'on pense être un nid de crocodile. Cela se fait généralement à midi. Les embosés vont nager à la surface de la rivière. Tout en portant des cordes, ils chercheront l'ombre d'un crocodile au fond de la rivière. S'il voit un crocodile, il nagera vers la tête du crocodile pour voir si ses yeux sont ouverts ou fermés. Si les yeux du crocodile sont ouverts, il reculera rapidement, ce qui signifie que c'est dangereux. Mais si les yeux du crocodile sont fermés, le plus rapidement possible, il enroulera une ficelle autour du museau du crocodile et une autre ficelle autour des pattes avant du crocodile. Ensuite, les extrémités de corde ont été remises à d'autres chasseurs qui attendaient au bord de la rivière. Ensemble, ils tireront le crocodile à terre et le tueront. La tribu de Bauzie connaît la méthode de communication téléphonique de la forêt. C'est une méthode d'envoi de messages sur la longue distance sans avoir besoin de câbles optiques, de tours de transmission et d'électricité. Le chercheur du Centre d'archéologie de Papouasie, M. Hari Suroto, a expliqué que cette méthode était un terme pour décrire un message ancien qui provient d'une personne et ensuite transmis à une autre personne. L'astuce consiste à crier très fort. La maison ou la cabane de la tribu Bauzie se trouve dans la forêt. Un groupe avec d'autres groupes vivent dispersés ou loin les unes des autres. Pour cette raison, les téléphones forestiers sont devenus un moyen de communication efficace pour transmettre des messages à des personnes éloignées. L'avantage des téléphones forestiers est que lorsque quelqu'un crie à un certain niveau de voix, sa voix se répercutera et résonnera dans la vallée ou de la rive jusqu'à un amont de la rivière, de sorte qu'elle soit facilement entendue par les autres membres de la tribu. Généralement, les Bauzie utilisent des téléphones forestiers lorsqu'ils cherchent des amis ou des membres de la famille qui chassent dans la forêt. Il utilise également le téléphone de la forêt pour donner des nouvelles s'il y a des familles qui sont décédées. Chers amis, c'était un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Seperti aku mencintaimu. tersimpan prasangka.
Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée Festival du cinéma indonésien australien. Le Festival du cinéma indonésien australien 2021 est organisé du 18 au 27 juin, mais cette fois il se déroulera en ligne. Pour la première fois en 6 ans, cette activité se tiendra en ligne en raison de la pandémie de COVID-19. Cela offre en fait une opportunité aux cinéphiles de toute l'Indonésie de pouvoir y accéder gratuitement sans avoir besoin de venir au cinéma. Alastair Cox, l'ambassadeur adjoint de l'Australie en Indonésie, a expliqué qu'à travers ce festival en ligne, ces films peuvent être diffusés dans toute l'Indonésie. Le Festival du cinéma indonésien australien présente divers genres de films. Le film sorti cette année met en lumière l'histoire, la diversité et la créativité de l'Australie. Le festival est ouvert avec le premier film en Indonésie qui raconte l'histoire de cavalier de chameau australien Gun d'Asidusut qui traverse le désert australien inexploré pendant le route vers l'or en Australie. Le festival mettra également en lumière les relations étroites entre l'Indonésie et l'Australie au cinéma. La programmation de cette année comprend deux films remarquables d'anciens élèves indonésiens australiens, y compris la célèbre d'art martiaux Pendekar Tongkat Emas et la délicieuse comédie romantique Millie et Mamet. Les cinéphiles peuvent également engager leur énergie créative à travers trois événements de séminaires de masterclass virtuels couvrant l'animation, la promotion de films et la cinématographie documentaire et de drones. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu. Terima kasih.
semoga waktu akan mengilhami sisi hatimu yang beku. Semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah.
Continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans le magazine musical. Cette édition, je vous présente la chanson originale de Kroncong, intitulée Merah Delima. Bien que certains chanteurs de Kroncong indonésiens l'aient chanté, il n'y a aucune information sur qui a créé. Merah Delima raconte d'une bague rouge comme une grenade. Une bague circulaire à l'annulaire est signe d'amour pour un couple. Il gardera et sauvera la bague rubis comme une promesse contraignante jusqu'à la fin de sa vie. Cette chanson est chantée par un chanteur de Kroncong indonésien qui a un fort caractère vocal, à savoir Toto Salmon, avec l'accompagnement de Oka Bintang Jakarta, dirigé par Budiman DJ. Bon, chers auditeurs, voici Toto Salmon avec la chanson dont le titre est Merah Delima, ou en français La Bague Cubie. Bonne écoute! Thank you.
Of Indonesia.
Akhirnya kini
l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.